pour compléter ce que vous avez dit, effectivement, il y a un changement de paradigme, en fait. Alors, on va utiliser très souvent le mot, à tout point de vue. Changement de paradigme du point de vue du risque toxique. On voit bien que les perturbateurs endocriniens représentent une rupture par rapport à ce que le fameux principe de Paracels, la dose qui fait le poison. On sait que c'est la période qui fait le poison. On sait que les faibles doses sont plus importantes que les fortes doses. On sait que l'effet différé, l'effet transgénérationnel sur plusieurs générations. Je retrouvais hier une publication datant de 1992, qui montre sur la souris, effectivement, qu'on peut faire des cancers jusqu'à la cinquième génération lorsqu'on expose cette souris au benzoapyrène. Le benzoapyrène, qui est le polluant classique de la pollution et classique de la combustion. Le benzoapyrène, lui, ce n'est pas du bisphénol qu'on a introduit, effectivement, pour faire des matières plastiques. Vous voyez, donc, on a la connaissance aujourd'hui pour repérer, effectivement, ce type d'impact. L'autre, ça, c'est un élément important qui montre l'urgence d'agir, parce que sinon, c'est un héritage qu'on transmet. L'urgence d'agir, et vous l'avez dit, c'est effectivement l'épidémie de maladie chronique. Et moi, ce qui me frappe, effectivement, c'est que le terme épidémie de maladie chronique, qui a été employé par l'OMS, la déclaration de New York, signée par les 184 chefs d'État et de gouvernement, je ne sais pas si grand monde, on ne va pas faire un sondage, mais si pas le sentiment que beaucoup de monde ait entendu parler de cette déclaration, alors qu'elle est essentielle. Elle dit « L'épidémie de maladie chronique aujourd'hui dans le monde est un enjeu majeur du développement durable en ce début de XXIe siècle. » Les mots sont pesés. Eh bien, ça devrait conduire aujourd'hui les politiques publiques dans tous les pays du monde. Et l'important, c'est effectivement de constater que cette épidémie n'est pas simplement dans les pays développés, pas seulement en France ou aux États-Unis, elle est dans le monde entier, parce que le mode de vie, le mode de développement que l'on a eu s'est répandu sur la planète. Et effectivement, c'est ce qu'on appelle l'intensification chimique, ce que le rapport du PNUE, qui est paru au mois de septembre dernier, appelle l'intensification chimique. Un chiffre, la chimie, le chiffre d'affaires de la chimie a été multiplié par 24 entre 1970 et 2010, par 24. Et donc tout ça, effectivement, se retrouve dans l'écosystème et dans l'organisme de l'homme. Donc, et tout ça se traduit aujourd'hui par une croissance des maladies chroniques. D'où l'enjeu de santé publique, c'est sur le point sur lequel je voulais effectivement insister, mais Chantal Joanneau l'a dit parfaitement, on a aujourd'hui une explosion des maladies chroniques. Le cancer aujourd'hui en France, c'est 1000 cas par jour. 1000 cas par jour. 1000 cas par jour, dont la moitié de ces personnes, malheureusement, seront décédées dans les 5 ans qui vont suivre. Il y a des progrès, certes, du point de vue de mortalité, mais les chiffres sont là. On est loin. Il n'y a pas, le cancer, contrairement à ce que dit l'Institut national du cancer, n'est pas devenu une maladie dont on guérit. C'est une maladie qui reste toujours avec l'épée de Damoclès. La croissance des cancers hormonodépendants montre bien que c'est vraisemblablement des causes de type perturbateur endocrinien qui sont en cause. Le cancer du sein est devenu la première cause de mortalité de la femme sur la planète. Pas rien, c'est pas simplement les pays les plus développés, sur la planète. De croissance des maladies métaboliques, le diabète qui progresse effectivement partout dans le monde, qui a doublé en 30 ans. On a aujourd'hui, quand on regarde la situation française, on nous dit que c'est le vieillissement. On vieillit, c'est normal, on est malade. Eh bien non, ce n'est pas normal. Le cancer a progressé 4 fois plus vite que le changement démographique au cours des 20 dernières années en France. Les maladies cardiovasculaires ont progressé 4 fois plus vite en incidence dans le nombre de nouveaux cas annuels que le changement démographique. Le diabète, 6 fois plus vite. 6 fois plus vite. Et on pourrait dire la même chose sur les maladies respiratoires. On peut développer les atteintes de la reproduction. On a eu une très belle étude de l'Institut national de veille scientifique qui est sortie il y a quelques semaines, en fait, sur la baisse de la qualité du sperme. Moins 30% en 17 ans. Si on trace la courbe, si on continue la courbe, évidemment, on n'est pas sûr que les choses vont se passer de cette façon-là, mais si on trace la courbe jusqu'au bout, eh bien, en 2050, la qualité du sperme en France, c'est zéro. Donc ça pose quand même un problème sur l'avenir de l'espèce humaine et notamment de la France. Bon, évidemment, les choses ne se passeront pas comme ça, parce que dès maintenant, cette évolution fait qu'un pourcentage de plus important de jeunes n'arrivent pas effectivement à procréer. Aujourd'hui, l'infertilité qui touchait un couple sur 7 en 1991 touche entre un couple sur 4 et un couple sur 6. Il y a 2 études qui donnent ce chiffre, donc on a une progression extrêmement importante. Tout ça est très lié. Et tout ça, on ne peut pas continuer à attendre d'avoir des preuves scientifiques encore plus fortes. On a suffisamment d'éléments, en tout cas, pour agir. Et vous avez raison, on n'est plus dans la précaution, on est dans la prévention. On a des milliers d'études, et le professeur Kortenkamp fait partie de ceux qui ont contribué effectivement à produire ces données, notamment le rapport qu'il a sorti sur l'effet cocktail, autre aspect qui change totalement le regard à avoir sur le risque toxique. L'effet cocktail, eh bien, comme il le disait dans une interview, 0 plus 0 plus 0 égale 60. Voilà, c'est des choses comme ça qui font qu'aujourd'hui, on ne peut plus... On a la base scientifique pour dire qu'il faut effectivement changer de paradigme, à la fois du point de vue du risque toxique, du point de vue de la politique de santé et du point de vue de la politique de protection de l'environnement. Donc c'est un immense challenge. Et ça n'est pas une mauvaise nouvelle. C'est une mauvaise nouvelle dans la mesure où, effectivement, les choses durent depuis un moment. Mais la bonne nouvelle, et vous l'avez dit, c'est qu'on peut agir. Et donc il y a place pour la volonté politique au niveau français, au niveau européen et au niveau mondial. Et c'est un peu le sens, effectivement, de cette réunion. Je redis, effectivement, l'importance pour nous de tenir cette réunion ici au Sénat et d'avoir le parrainage de Chantal Jouanneau et de Leïla Hachi. Voilà, je voulais redonner un peu cette perspective-là. En disant effectivement que notre action en tant que réseau environnement santé, donc en tant que rassemblement d'ONG, de professionnels de santé, de scientifiques, d'associations de malades, eh bien consiste effectivement à mettre dans le débat public ces données, puis de permettre aux citoyens de s'exprimer. Donc nous sommes partant dans la conception de la stratégie nationale perturbateur endocrinien, mais nous proposons, nous lançons, et je l'annonce ici d'ailleurs, une pétition pour permettre à chaque citoyen de s'exprimer autour de l'objectif qui était celui que John Kerry avait donné. Donc on se place dans le sillage de John Kerry, l'organisme d'aucun parent ne doit être contaminé. Donc pas de perturbateur endocrinien, ni dans mon corps, ni dans l'environnement. Voilà le mot d'ordre que l'on propose, sur lequel on pense une large partie de la population, si ce n'est peut-être la totalité, logiquement, doit se reconnaître, de façon à ce qu'effectivement cette voix se fasse entendre aujourd'hui, que par-delà les petits calculs à court terme, eh bien cette exigence, cet objectif soit effectivement porté par la plus large fraction de la population et des décideurs.